Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKV Show. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme toujours, de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Salut Nico, comment ça va ?
Moi ça va, je suis un peu fatigué, je me réveille à peine. Pour te dire, tu es la première personne à qui je parle aujourd'hui, donc c'est pas facile.
Ah là là, je suis tout ému quoi, ça me fait chaud au cœur. Ouais, on a inversé les rôles là, c'est moi qui veille et c'est toi qui te lève tôt.
C'est ça, mais c'est bien aussi, hein, ça change, hein, et normalement je devrais être vachement opérationnel, mais bon, en tout cas je l'espère parce que on a quand même pas mal de choses à discuter avec vous. On va parler de plein de trucs, on va parler évidemment de la conférence Google I.O. puisqu'on n'en a pas parlé, on n'a pas pu aborder le sujet, et tu as été notre émissaire sur place pendant quelques heures, donc tu vas pouvoir nous en parler un tout petit peu. On abordera les nouveautés matérielles parce qu'il y en a eu pas mal d'annoncés quand même, et puis j'ai testé 2-3 trucs pour vous, et toi aussi Thomas, tu as testé 2-3 trucs pour nous. On abordera aussi la sécurité sur nos Chromebooks rapidement, facilement, mais il y en a, et il y en a de plus en plus. Et en plus, on parlera d'un nouveau scandale, un scandale qui a éclaté entre Huawei et Google et les États-Unis et le reste du monde. Si jamais vous voulez beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, référez-vous à l'épisode spécial qui a été enregistré par Thomas. Il y avait qui ? Il y avait Mathieu et il y avait Pod, donc trois grands noms du podcast qui étaient réunis pour parler du scandale. Donc, allez voir, c'est l'épisode juste avant celui que vous avez dans les oreilles actuellement. Ouais, et puis, on parlera des prédictions. Dis-moi.
J'allais dire, tu nous as beaucoup manqué, Nico, désolé. Hein, c'est vrai que c'était un peu difficile de se coordonner pour trouver un horaire qui fonctionne à tout le monde. Donc malheureusement...
Non, mais j'étais quand même.
Ton esprit était là, voilà.
Ouais, j'étais là. Je suis sûr que dans mes rêves, j'ai influencé le discours. Et puis ensuite, on parlera de Nostradamus, Thomas Nostradamus, qui a des prédictions de fou qui se révèlent toujours justes. On verra si ça continue avec ce qu'on va aborder. Est-ce que tu es prêt, Thomas, pour ce nouvel épisode qui va être très chargé de commentaires, je sens.
Allez, on est parti.
Google I.O. Tu as insisté, tu vas pouvoir dire si tout ce que je dis c'est vrai ou pas, mais moi j'ai relevé quelques points qui me semblaient être intéressants. Le premier que j'ai relevé, qui est pour moi le top du top, le must du must, c'est Google Assistant qui va passer dans la prochaine version d'Android en hors ligne. Je sais pas si toi ça t'a bluffé.
Ouais, absolument.
Moi, j'ai été bluffé.
Ça a étonné tout le monde. Je pense que c'est un peu la démonstration qui a fait à peu près le même effet à tout le monde que la démonstration de Duplex, de Google Duplex l'année dernière, où on avait Google Assistant qui parlait à quelqu'un qui répondait au téléphone dans un restaurant. Là, c'était un peu le même effet, en gros, quand ils ont fait l'annonce du fait que oui, ils ont réussi à compresser donc le réseau de neurones, pour le dire simplement, de Google Assistant en quelques mégas. Donc ça veut dire que n'importe quel téléphone Android dans les mois à venir sera capable d'embarquer directement toute l'intelligence de Google Assistant directement en local, sans avoir à envoyer des échantillons de voix et à faire des allers-retours entre les serveurs de Google et l'appareil. Donc c'est vraiment une prouesse phénoménale, et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que Google est quand même pas mal en avance par rapport à Alexa, et encore plus par rapport à Siri et Cortana, mais là ils ont clairement accentué leur avance sur leur capacité à fournir un assistant qui non seulement fonctionne bien, mais en plus ouais fonctionne hors ligne.
Ouais, est-ce qui est vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, ce qui est vraiment bluffant, il y a une démonstration alors je me souviens plus du nom de la personne qui a fait la démonstration. Moi, ce que ça va apporter en fait finalement d'avoir le truc hors ligne, parce que en soi, je me dis à quoi ça sert qu'il soit en ligne ou hors ligne, on s'en fiche un petit peu nous utilisateurs. Mais quand on voit la démonstration, on se dit ouais, évidemment, pourquoi ça a pas été fait avant. Bon, on comprend les difficultés techniques de compresser tout ça, mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est que le fait qu'il soit hors ligne permet une interaction hyper réactive, hyper fluide, naturelle avec les applications natives au téléphone. Tu veux lancer un appel, ça va pas aller sur le serveur, donc prendre quelques centièmes de seconde, revenir à ton téléphone pour ouvrir l'application téléphone. Tu veux envoyer un SMS, c'est la même chose. Ça va ouvrir quasiment instantanément l'application SMS pour écrire ton message. Ou, enfin, il y a des tonnes de choses, hein, Google Maps, lancer l'appareil photo, des choses comme ça. C'est des choses qui vont être beaucoup plus rapides. À tel point que je me dirais que bientôt, tes doigts, ils seront inutiles pour utiliser ton téléphone.
Ouais, non, mais c'est pas complètement idiot. Et c'est vrai, tu l'as dit. Donc, ouais, il y a deux avantages, en fait. Le premier, c'est l'avantage, ou trois, on va dire. Le premier, c'est, bah oui, quand t'as pas Internet, Google Assistant fonctionne encore, ce qui est pas mal. Ensuite, c'est, bah, la capacité à faire tous les traitements locaux. Donc, ça veut dire que, on va reparler de vie privée, dans quelques minutes, mais toutes les questions qui se posent autour de, d'envoyer tes données, d'envoyer, tout un tas d'informations à Google, et ben là, tu peux potentiellement, à un moment donné, on sera capable d'utiliser Assistant sans avoir besoin d'envoyer les données en permanence sur les serveurs de Google. Et puis le troisième point que je suis en train d'oublier. Ah oui, le troisième point. Je suis désolé, il est tard. Le troisième point, comme tu dis, c'est le côté instantané, quoi. On imagine bien que quand tu peux tout faire en local, bah, ça va forcément un petit peu plus vite que si tu avais besoin d'uploader du son sur un serveur et d'attendre que le serveur traite la requête pour te retourner la réponse, quoi.
Et ça même, moi j'ai même l'impression que ça va plus vite que de nous-mêmes aller chercher l'information. Quand tu lances elle écrit un message, toi, le temps que tu déverrouilles ton appareil, tu ailles dans les applications, que tu cliques sur message, elle était déjà en train de saisir son texte.
Ouais, c'est vrai.
Donc on a même plus besoin de chercher. En gros, on pourrait ne plus avoir d'interface visuelle entre nous et la machine quasiment. À tel point, c'est fluide. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que, alors ça, j'ai pas bien compris. Le mot clé pour appeler l'assistant virtuel. Je dis pas parce que j'ai trois assistants autour de moi dont je peux en parler. Le mot clé pour l'appeler, elle ne le dit qu'une fois et ensuite elle enchaîne les demandes. Mais à une vitesse folle et l'appareil comprend mais très très bien quoi. Donc, ouais. C'est assez bluffant.
Ouais, ça c'est assez impressionnant en fait. Bah depuis quelque temps, on avait parlé d'ailleurs dans un épisode précédent. En fait, Google Assistant a activé. Alors je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, mais je crois que c'est la conversation continue ou quelque chose comme ça. Alexa avait initié le mouvement. Ça date de septembre de l'année dernière ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, ça te permet de poser une question. Et si t'as une question de follow-up, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais si t'as une deuxième question en fait à la suite de cette première question ou une deuxième requête, en fait Google Assistant va continuer à écouter et donc du coup potentiellement saisir la deuxième requête que tu poses. Mais en général, il me semble que c'est seulement limité à deux requêtes. Alors que là, tu l'as dit dans la démonstration, en fait, on sent que Google Assistant reste plus ou moins actif et continue d'écouter pour être sûr de, enfin pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de lui en fait. Et donc du coup si il y a pas de requêtes qui suivent dans les, je sais pas combien c'est, peut-être quelques secondes qui suivent, et ben du coup le Google Assistant va s'éteindre entre guillemets. Mais si tu continues à demander des choses, et ben du coup il va continuer à aller chercher une photo, à l'afficher, à la balancer par SMS, etc., etc. Enfin allez voir la démo, c'est vraiment. C'est vraiment vraiment impressionnant.
Ouais, c'est vraiment sympa. Dans le même esprit, moi, ce qui m'a bluffé, c'est enfin la technologie au service de l'humain et avec des fonctionnalités que Google a intégrées, donc à Google qui va intégrer en Android Q 9, 10, je sais plus combien. C'est tout ce qui est lié au problème de pour les Oh, j'ai du mal ce matin, dites donc, au problème des sourds et malentendants. et c'est assez bluffant. La démonstration était bluffante. Et donc, ils ont intégré plusieurs applications qui se servent soit de Google Lens, pour ceux qui le connaissent, soit de Voice Match, Cheese, je crois, ou un truc comme ça. Donc, c'est Live Caption. Je ne sais pas si tu as vu et si ça t'a bluffé, toi. Mais Live Caption, c'est en gros sur une vidéo. À la volée, l'appareil va via une espèce de bulle qui va apparaître sur l'écran transcrire le vocal en texte instantanément. Donc à la volée, la personne va parler et automatiquement tu vas l'avoir affiché en texte. Donc pour les sourds ou malentendants, c'est juste génial parce que enfin ils vont pouvoir profiter d'une scène de vie à la maison. Par exemple, on voit une vidéo où il y a la maman avec l'enfant qui rigole, qui s'amuse parce qu'elle mange ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Et c'est traduit ça va le traduire en plus en plusieurs langues, mais en plus c'est à la volée, t'as le texte qui apparaît comme un sous-titre de film, quoi. C'est juste bluffant. Moi franchement je trouve ça génial, hein. Je sais pas toi.
Ouais, non, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose dont ils avaient parlé il y a 6 mois, on en avait parlé aussi, ou un peu moins peut-être. Et tu m'avais dit tu t'étais inscrit sur la tu t'étais
Ouais.
inscrit sur la bêta, et donc du coup t'avais été capable de tester, hein, c'est ça, t'avais toi-même
Alors,
testé la transcription automatique.
super bien, mais là, franchement, ça a l'air encore mieux parce que la transcription, moi, l'application que je teste, c'est celle qui est alliée dans le Pixel 3a. Dans les Pixel 3, d'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à l'appareil. Mais là, on parle vraiment d'une vidéo. En fait, n'importe quelle vidéo, tu prends une vidéo de famille, ça va le sous-titrer, alors que là, celle qu'on a actuellement, ça ne sous-titre que ce qu'il entend via le micro. Tu prends un film, ça va le sous-titrer, tu prends une conversation. Ah bah tiens, on va y arriver. Il y a un autre truc qui s'appelle donc Live Replay. Qui est une fonctionnalité un peu équivalente, mais qui va transcrire en texte une communication téléphonique. Quelqu'un qui t'appelle aujourd'hui, si t'es malentendant ou sourd, ben c'est gentil, mais c'est pas la peine de m'appeler, je ne t'entends pas. Mais grâce à ça, en fait, ça sous-titre automatiquement. Enfin, ça sous-titre, oui, ça donne un effet de SMS en fait, où la personne qui parle va être traduite en texte, la personne qui veut répondre, donc qui est malentendante, répond en texte et ça va être traduit à l'interlocuteur, ça va être lu à l'interlocuteur. C'est juste énorme. C'est un service qui est en France obligatoire depuis fin d'année dernière. Les opérateurs français sont obligés de créer des applications pour les malentendants. Et bah là, ça dépasse tout ce que les opérateurs français ont pu faire, hein. C'est parce que les opérateurs français se servent d'humains pour faire la traduction. Soit en langage des signes, soit en texte, soit en voix eux-mêmes. Là, c'est automatisé, donc ça veut dire que la personne malentendante va pouvoir téléphoner.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Et il y avait aussi un exemple d'une personne qui était malentendant, et donc qui s'exprimait avec un comment dire. En gros, c'était très difficile en fait de comprendre ce que cette personne disait. Et en fait, ils ont poussé la chose un peu plus loin en permettant aussi à des gens qui s'expriment avec un handicap d'aussi avoir la transcription. Et c'est là où c'est fascinant, c'est que toi qui, par exemple, bah, tu parles une langue et tu te retrouves avec une personne qui a un handicap d'élocution, tu vas pas forcément comprendre ce que la personne te dit, en dépit du fait que cette personne parle la même langue que toi. Mais là où c'est fascinant, c'est que bah, Google, en fait, le service de transcription automatique peut être entraîné pour comprendre cette personne qui parle avec ce problème d'élocution, et du coup te faire la transcription à toi pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux ce que cette personne te dit, quoi. Et donc là encore, c'est en gros, faut imaginer les sous-titres en temps réel dans n'importe quelle condition. Pour le faire
Ouais.
simple, c'est ça. Donc
Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très intéressant parce que ça, d'un seul coup, je crois que le terme qu'il utilise, c'est que, alors, comment il nous donne une phrase qui m'a bien plu, mais je l'ai zappée. En gros, c'est la parole donnée à tout le monde pour pouvoir faire ce que tu veux. Maintenant, tu vas pouvoir parler, lire, écrire, même si t'as pas ces capacités-là dans toutes les langues, et même si t'es sourd ou malentendant ou même non-voyant pour certaines autres applications. Et vraiment, la technologie au service de l'homme, c'est vraiment génial et ça va simplifier la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Donc moi, je pense que au-delà même de Google Assistant, tout à l'heure, je t'ai dit que Google Assistant, c'était la chose qui m'avait le plus plu. Alors oui, pour moi, c'est ce qui me plaît le plus. Mais si je suis moins égoïste, ce qui est vraiment génial dans cette conférence, je pense, c'est cette partie-là, en fait. C'est la partie accessibilité.
ouais. Donc du coup là, le projet dont on vient de parler s'appelle projet Euphonia. Mais ouais, il y a live caption et live replay pour les sous-titres dont on vous parlait avant. Ouais, tu l'as dit, en fait, c'est marrant. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle, enfin de prendre un peu de recul en fait sur toutes ces conférences. Hein, j'ai eu la chance, en fait, c'est la 7e fois que je vais à Google I/O. Donc la première fois c'était en 2000, combien, 12, 13, 2013. Et à
Si t'en
l'époque,
as pas loupé, oui.
comment tu dis?
Si t'en as pas loupé.
Ouais, si j'en ai pas loupé. La première conférence à laquelle j'ai assisté, c'était l'annonce de Google Glass, et je sais pas si tu te rappelles le saut en parachute de Sergey Brin juste au-dessus du Moscone Center à San Francisco. Et
ouais,
donc c'était pour le coup, enfin c'était du sensationnel à l'état brut, pour reprendre une expression un peu désuète. Et c'est vrai que quand tu regardes, bah aujourd'hui Google a plus du tout la même façon de communiquer en fait sur ce genre de dans ce genre de conférence quoi. C'est plus simplement on fait des trucs cool, regardez on est cool, on fait des trucs cool. On a mûri et on se rend compte que on a des grands pouvoirs, mais on a aussi des grandes responsabilités. Et le fait qu'ils mettent autant l'accent sur, pour paraphraser un mec qui se balance de gratte-ciel en gratte-ciel, mais du coup, ouais, c'est quand même marrant de se dire qu'aujourd'hui, bah, ils mettent en avant l'accessibilité et la capacité que peut avoir la technologie à résoudre le handicap. Et c'était vraiment enfin, c'était le sujet, un des trois sujets les plus importants. On va parler de la vie privée dans une minute, mais ça faisait vraiment partie des sujets les plus importants qui ont été développés autour de la keynote, quoi. Tu vois, c'est même pas une session parallèle dans laquelle, en gros, il y a des gens qui viennent parler des questions d'accessibilité et de mise à disposition des technologies pour les personnes handicapées. C'était vraiment un des sujets sur lesquels ils ont le plus communiqué pendant la keynote.
On ne traîne pas. On parle de vie privée aussi. Ils ont parlé de vie privée parce que c'est le cheval de bataille depuis 2018, depuis une certaine affaire avec un certain bonhomme qui s'appelle Marc. La vie privée, Google n'est pas vraiment, comment dire, sans être, c'était pas trop son truc de protéger la vie privée des gens, quoique. À peu près clair si on arrive à lire les 876 pages de conditions générales. C'était plutôt l'affaire de Apple. Clairement, Apple se met en chevalier blanc avec des annonces partout, ce qui se passe sur un iPhone reste sur un iPhone, bref, tout ça. Et Google, ben, visé par Apple via ses communications, se réveille et nous donne enfin la main sur plusieurs choses et nous permet de protéger notre vie privée pour certaines actions sur certaines de ces applications. Il y a beaucoup de certains, hein, c'est certain. Donc on a vu enfin le profil incognito, je sais pas si ça s'appelle comme ça, qui arrive, qu'on utilise aujourd'hui sur Chrome. En fait, on peut surfer sur Internet en restant anonyme, si on peut s'exprimer ainsi, ce qui est pas tout à fait le cas, mais pas mal en tout cas, où les cookies vont pas rester ou autre chose comme ça. Ce profil arrive enfin sur Google Maps, qui permet de faire une recherche sur l'application sans que celle-ci soit forcément gardée par l'application. Alors je vois pas trop l'intérêt moi, mais enfin si je vois un seul intérêt, puisque je suis pas un tueur, c'est pas grave qu'on sache où je suis allé. Le seul intérêt que je vois, c'est si je viens chercher pour l'anniversaire de mon ami ou un truc comme ça pour pas qu'elle voit au cas où. Moi, c'est le seul avantage que j'y ai, ou je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas trop compris, mais ça doit être sûrement utile pour plein de monde. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses du mode incognito dans Maps?
Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu préemptif, en fait. C'est, ils savent qu'il va y avoir beaucoup de publicité dans les mois et dans les années à venir. Là, la monétisation autour de Google Maps, c'est pas nouveau, mais ça fait, là, c'est parti, quoi. Et donc du coup ils se disent il faut qu'on donne la possibilité à nos utilisateurs de surfer incognito pour pas être ciblés par de la publicité et en gros ne pas avoir l'impression que chaque fois qu'ils vont faire une recherche pour imagine tu cherches un magasin de matelas par exemple, j'en sais rien, c'est plus ou moins une histoire vécue il y a quelques mois quand j'ai déménagé, et ben du coup tu vas te retrouver avec plein de pubs pour le matelas partout, enfin tu vois c'est enfin moi je sais que ça m'est arrivé deux trois fois où je me suis dit ah bah ouais bon je vais rechercher, ok je recherche ce nom de magasin, je suis à peu près sûr que je vais me retrouver avec de la pub pour ce type de produit dans les semaines à venir. Donc je pense que ça part un peu de ce principe-là. Tu l'as dit, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui en éprouvent le besoin impérieux et qui se disent tant pis, je vais faire une recherche sur Mappy parce qu'au moins je sais que eux ils me retargeteront pas.
C'est ça.
Mais je pense que ça, à mon avis, c'est des usages qui vont arriver dans les mois à venir de façon assez intense. Donc ils prennent les devants en fait en proposant ça.
Alors, ils proposent ça. Moi, je pense que ça va pas servir à grand monde parce que c'est quand même une action à faire avant de faire ta recherche. Donc, est-ce que tu vas penser à passer en mode incognito sur Google Maps avant d'aller chercher ton magasin de matelas? Alors, toi, peut-être que oui, mais monsieur et madame Michu, je suis pas sûr, en fait.
Non,
donc,
oui, t'as raison.
Ça, au ça moins, ils pourront pas dire que c'est pas fait, quoi.
Ouais, voilà, ça s'adresse vraiment à des utilisateurs avancés, ça, c'est sûr. C'est pas forcément pour le grand public tout de suite. Comme le mode incognito sur le navigateur, hein, d'ailleurs, ça reste un usage avancé, je pense. Même s'il y a probablement plus de gens qui utilisent le mode incognito sur Chrome que sur Maps, ça reste quand même un usage spécifique.
Dans la continuité de ceci, Google a annoncé, alors ça avait déjà fuité, il y a déjà des personnes qui l'avaient testé, la possibilité, alors ça c'est un truc énorme hein, quand même, la possibilité de supprimer l'historique l'historique de ton compte Google, avec un délai de 3, 18 mois ou jamais, c'est toi qui vois. Donc par défaut, il faut savoir que ce sera jamais, hein, évidemment. il faudra aller chercher toi-même dans le dashboard de Google, de ton compte Google, et paramétrer le 3 mois ou 18 mois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, je l'ai pas encore. J'ai essayé. A priori, ça va être déployé progressivement sur tous les comptes. Peut-être tu l'as vu déjà apparaître sur ton compte Google.
Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai pas trop cherché. Par contre, j'ai vu passer la nouvelle, donc je savais que ça existait. Et tu dis par défaut, c'est jamais. Moi, je serais pas étonné un jour de voir en Europe, parce que mine de rien, l'Europe est en train de prendre de l'avance sur ces questions-là, grâce à la GDPR. GPRD.
GRDP.
Non, GRDP.
GRPD.
Mais
RGPD.
RGPD en français, voilà ça. Mais du coup, ouais, je serais pas étonné un jour de voir Google en Europe ou en France en particulier proposer la suppression automatique de l'historique après 18 mois par défaut. Mais ouais. Bon, c'est un détail. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de pub là. J'ai eu l'occasion de tester en bêta une app qui s'appelle Jumbo, en fait c'est jumboprivacy.com si vous voulez en savoir plus, et c'est assez marrant en fait. C'est une app indépendante en fait qui est absolument pas affiliée à Google, mais en fait qui proposait ce genre de service en particulier pour Twitter et Facebook, bientôt probablement pour Instagram et pour Tinder aussi. Et du coup, c'est exactement le même principe. C'est une app qui vous permet de supprimer votre historique pour Alexa aussi. Donc, si vous voulez supprimer toutes vos, je pense qu'on en avait parlé. Hein, si vous allez dans le panneau de contrôle d'Alexa, vous pouvez voir toutes les commandes que vous avez émises à Alexa. Et donc, tout est enregistré, tout est stocké. Et donc, du coup, Jumbo vous permet automatiquement de supprimer cet historique. Donc voilà. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil.
Si je comprends bien, tu donnes les droits d'accès à ton profil et il va supprimer tous les historiques au bout d'un laps de temps ou automatiquement tout.
Alors c'est marrant. Au début, quand j'ai testé, en fait, c'était quelque chose de manuel en fait. Donc c'était à toi tu faisais l'effort manuellement. Je pense que assez rapidement, à mon avis, ils vont se mettre à automatiser les tâches. Pour que tu la démarres une fois et après t'as plus besoin de t'en soucier. Mais je trouve que c'est un sujet très intéressant et forcément on en parle tout le temps, en particulier avec tous les scandales de Facebook. Mais c'est vrai que finalement il n'y a pas tellement d'outils unifiés qui te permettent de faire une gestion un peu fine comme ça de la suppression de tes historiques et du nettoyage des données que tu peux laisser derrière toi. Donc,
Des choses, mais ça reste assez confidentiel. Hein, donc, ouais. Si tu m'avais pas parlé de Jumbo, techniquement, je l'aurais peut-être jamais trouvé. Il y en a, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'outils, enfin, il y a tellement de services différents que c'est compliqué d'avoir une application qui va. Moi, j'ai pas envie d'avoir 17 applications, ouais. Une pour Google, une pour Amazon, une pour ci, une pour ça. Ouais. J'ai pas envie de me prendre la tête avec une caisse à outils pour supprimer mes données. Alors effectivement, si un jour il y en a une qui fait tout ça d'un coup, c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce que les gens attendent. Ça évitera de se retrouver avec une multitude de services, enfin inutiles, où tu vas t'en servir qu'une fois finalement. Donc là. À voir. Et tu sais, le business model, il est déjà établi ou pas du tout?
Je me rappelle avoir lu un truc
tu leur donnes tes données.
Sur la question. Non, je me demande si c'est pas un service qui sera proposé aux entreprises à un moment donné. Je me rappelle plus, pour être très honnête. Il me semble que j'ai lu quelque chose, mais je me rappelle plus exactement.
Sur le site internet, on va trouver.
Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est juste le début. Hein. C'est une application qui a 3 mois, même pas 2 mois. Donc, pour l'instant, c'est gratuit et je pense qu'ils sont en train d'acquérir une certaine audience avant de penser à la monétisation.
D'accord. Ok. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. On laisse le lien dans les notes de l'émission si vous voulez aller voir Jumbo Privacy. C'est un très très bon, très très bonne alternative à ce que Google peut proposer pour ses propres outils. Si on continue dans la vie privée, j'ai une question. Alors non, il y en a une autre. On va parler juste de celui avec les 3 petits points devant. Vous le saviez pas, Google check votre boîte mail. Alors si vous avez un compte Gmail gratuit, alors tiens, bon, c'est peut-être l'occasion d'expliquer la différence entre un compte Google payant, je ne sais plus comment ça s'appelle, et un compte Gmail gratuit. La différence, c'est qu'il y en a un des deux, et ben Google ne scrute pas vos informations. Typiquement, si tu as un compte payant, normalement, tu ne peux pas voir ce qu'on va dire juste après. Parce que c'est pas toi le produit, c'est ton argent qui fait que Google gagne de l'argent. Quand il y a un compte gratuit, ben c'est gratuit, il faut bien qu'ils se rémunèrent d'une certaine façon, donc ils vont regarder vos informations. En l'occurrence là, Google depuis 2014 je crois, liste votre boîte mail à la recherche d'éléments que vous avez achetés et vous crée, alors suspense, une liste de la totalité des achats que vous avez effectués via cette adresse, enfin, en correspondance avec cette adresse Gmail. C'est assez bluffant. Alors moi, j'achète rien avec mon compte Gmail. Je l'ai fait qu'une fois il y a 15 jours et je me suis retrouvé à voir que j'avais acheté un produit et il est listé, mais d'une façon assez sympathique. Donc je sais exactement quand j'ai acheté le produit, à qui je l'ai acheté et il détaille tout ce que j'ai eu dans ma livraison. Récapitulatif du produit. Donc pour la petite histoire, j'ai acheté un Pixel 3a, le Google Home m'a été offert, ça indiquait dessus et ça indique même les frais de livraison, l'adresse de livraison, et c'est assez bluffant. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah c'est cool, je vais pouvoir me faire un listing de tous mes dépenses. Bon, ayant donc j'ai utilisé qu'une fois mon compte gratuit, et voilà. Je sais pas si tu l'avais vu passer cette news, Thomas. Ouais. Et si ça t'inquiète pas un petit peu de savoir que Google lit les mails pour ça?
Bah en fait non, parce que je m'en doutais. En gros, quand t'achètes quelque chose, c'est pas uniquement quand tu utilises ton compte Gmail. En fait, c'est à chaque fois que tu reçois un email avec une facture cas une information de livraison en fait sur ton adresse Gmail. Et c'est vrai que les gens qui utilisaient, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque de Inbox, enfin je dis à l'époque, c'était ouais. Il y a 2 mois.
Il y a loin, il y a presque 3, ouais c'est ça, il y a presque 2 mois quand même.
Donc voilà, donc Inbox qui était une application alternative de mail de Google qui a fermé ses portes il y a quelques mois. En gros, te proposer un certain formatage en fait de tes achats. Et c'est vrai que ça implique en fait qu'il a clairement compris que c'est un achat, tu vois, pour te montrer des informations au sujet de la livraison, etc., etc. Ça veut bien dire que derrière il a analysé ça comme étant un achat. Donc du coup, de là à te résumer tout ça sur une seule page, il y a qu'un pas, et ça m'étonne pas qu'il l'ait franchi. Tu vois, de la même façon aussi qu'il te gère tes informations quand t'es en voyage, par exemple, et qu'il te présente tes informations de vol ou tes réservations d'hôtel, etc., etc. Je pense que les achats, c'est un petit peu la même chose, en fait.
Il y a une chose qui m'amuse, c'est que alors moi j'ai beaucoup de fans d'Apple, je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Les opposés s'attirent, j'imagine. Et ces fans d'Apple, il y a un truc qui s'appelle Wallet Jacket ou je sais pas quoi, où en fait quand ils font un achat de billet de train, d'avion, hop, c'est automatiquement remis dans leur agenda la période à laquelle ils doivent partir, tout ça. Et ils sont super heureux, ils se disent ouais c'est génial, j'ai rien à faire, c'est automatisé. Alors je sais pas si ça marche encore, mais quand on en parlait, ça marchait. Et Google est en train de faire la même chose, sur les achats, parce qu'ils listent tout, ils vont lister. Et là, tout le monde s'offusque en disant « Ah, c'est inadmissible, ils listent tes mails. » Donc, bon, moi, je veux pas dire que, en fait, c'est ISO, mais pas loin. Donc, ça m'amuse bien de voir ça, parce que j'ai entendu dire que le fait que Google liste tes achats, c'est juste inadmissible, et surtout qu'ils le disent pas, machin, tout ça. Moi, je trouve ça bien, parce que ça, mais... déjà, de toute façon, je suis passé par...
Tu coupais un peu, tu dis tu trouves ça bien pour?
Moi, je trouve ça bien le fait qu'ils puissent faire un listing de mes achats. Ça me permettra de savoir combien je dépense dans les conneries sur Internet. Ça me permettra de, voilà, tu vois, je vais pouvoir avoir un listing de tout ce que je veux. Et puis c'est bien fait. C'est bien fait. Alors peut-être ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils ne nous l'aient pas dit, que ça soit quelqu'un qui soit tombé dessus par hasard.
Ouais, c'est
peu c'est ça, juste ouais. ça en fait. C'est ouais. la communication qui a encore une fois été un peu mauvaise. Ouais. Alors que s'ils avaient dit, on va enfin lister pour que vous puissiez, et puis donner du sens à ça, on aurait pu avoir un effet waouh, wow, c'est génial. En plus c'est beau. C'est une carte qui est vraiment bien faite et qui est bien détaillée. T'as l'heure, t'as tout, t'as l'idée. Et franchement c'est bien. Et j'avais jusqu'alors pas la possibilité d'effacer cet achat de ma base en fait, et là je viens de voir qu'il y a un bouton qui est apparu qui s'appelle effacer l'achat, donc je sais pas si Google est juste en phase de test là-dessus. Mais je peux effacer un seul achat si je veux.
D'accord.
Donc voilà, moi je trouve ça bien, c'est bien. J'ai une question qui s'ouvre à moi depuis un petit moment, depuis la Google I/O en fait, et tu vas peut-être m'y répondre, et ça va peut-être passer un peu de temps. Google, donc l'assistant devient hors ligne. On peut masquer ces informations en allant sur Chrome. On peut supprimer son historique à 3 mois. On peut ne plus être vu lorsqu'on se déplace avec Google Maps. On peut effacer nos achats sur Internet. Bref, on peut tout effacer notre vie de chez Google. Mais j'ai une question. D'accord, ils vivent avec nos données grâce à la publicité. C'est leur revenu principal. Et la question, c'est comment vont-ils vivre par la suite s'ils n'ont plus de données à un moment donné, encore une fois, tiens, j'ai mis bien du bon aujourd'hui. À un moment donné, ils vont devoir récupérer la thune autrement. Et quelle sera leur façon de faire on a l'impression d'avoir un tournant, un changement de business plan. Et ça m'interroge un petit, ça m'interpelle un petit peu. Je sais pas si toi ça t'a posé la question, ou si moi je te réveille à 23h en me disant tiens, j'ai une question existentielle à te poser, est-ce que tu peux m'en... Et du coup, tu vas pas aller dormir. Moi ça me pose une question, enfin ça me laisse réfléchir sur le sujet, à quel moment Google va changer son fusil d'épaule, et pour avoir moins de données, il faut qu'il trouve de l'argent, et comment il va trouver de l'argent. Ouais. Voilà, je te pose ta question, tu as 4 heures.
Non, mais pour la faire en deux mots, je pense qu'ils en ont suffisamment des données, en fait. Mais c'est vrai, t'as raison, ouais. Aujourd'hui, Google fait énormément d'argent sur une seule chose, hein, c'est le fait qu'ils vendent de la publicité super, super ciblée. Et c'est ça aujourd'hui, hein, la façon dont Google fait de l'argent. Le reste, c'est accessoire. Et du coup, bah oui, c'est clair qu'en faisant, en te donnant plein de contrôles pour limiter les informations que tu leur laisses, bah ils se tirent d'une certaine façon une balle dans le pied. En même temps, ils savent que ils ont pas complètement le choix, tu vois, avec la RGPD, j'arrive pas.
Ouais, enfin, le truc de la loi européenne.
Ouais. Avec la RGPD, ils savent bien que ils sont obligés déjà de rentrer dans les clous de ce point de vue-là, mais je pense que c'est un peu le sens général de l'histoire, et donc du coup, en prenant un peu les devants, finalement ils prennent les devants, quoi. Je pense que c'est ça, hein. Ils savent que ça va arriver d'une façon ou d'une autre, donc ils se disent autant que ce soit nous qui prenions l'initiative, comme ça au moins on aura quand même un petit peu de contrôle sur la direction que prennent les choses. Voilà.
Ouais. Moi je pense qu'ils vont récupérer toujours plus de données.
Ouais.
Quand même, malgré tout, on le voit, l'assistant passe hors ligne, il va pouvoir être vendu quasiment partout dans le monde, du coup. Donc ce produit-là, tout le monde va le récupérer. Et à un moment donné, je pense aux pays émergents qui aujourd'hui ont des réseaux internet très pourris. Avoir Google Assistant, enfin c'était pas possible, parce que le temps qu'il interroge le machin, t'avais meilleur temps d'aller chercher toi-même ton information. Donc là, ils vont peut-être grâce à ça arriver dans des pays où ils pouvaient pas avoir Google Assistant. Donc indirectement, plus t'as de monde qui te donne de données, plus t'as de données, même si t'en récupères moins par personne. En fait, on vise la volumétrie et plus la quantité par personne. Donc du coup, une fois que ces gens-là seront habitués et que le réseau internet deviendra meilleur, forcément ils vont continuer à utiliser ce système-là. Ils balancent l'assistant partout, tu l'as dans ton téléphone. Ils ont dit combien, plus d'un milliard de produits, 1,5 milliard, je crois.
Enfin, c'est ça.
Un chiffre énorme, mais ils continuent en le rendant hors ligne. Ils vont encore envahir plus de choses, et surtout ils vont se couvrir en disant nous, la confidentialité, on y est à fond, hein, c'est hors ligne, Ouais, mais du coup, quand t'es pas hors ligne, la confidentialité l'est plus. Et puis ça t'oblige à créer un compte Google, du coup, puisque si t'en avais pas un que tu veux jouer avec Assistant, t'es obligé d'avoir un compte Google.
Ouais.
Donc du coup, tu vas peut-être utiliser les outils Google. Google Maps, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, tu peux passer incognito, mais il faut y penser. Chrome, oui, tu peux passer incognito, mais il faut y penser. Supprimer l'historique, tu peux le faire, mais il faut y penser. Il y a plein de choses comme ça où finalement, on te donne les outils pour supprimer, mais vu qu'on ne te les met pas avec un gros bouton passer incognito dès que tu navigues, ben, c'est à toi de le faire. Donc la plupart vont oublier, à mon avis. Donc on va récupérer plus de données. Et puis tous les services qu'on va donner derrière. Là aujourd'hui, la transcription live, je vais pondérer du coup un peu ce que je disais tout à l'heure. Live caption, c'est génial, hein. Sauf que clairement, ils écoutent tes vidéos personnelles, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils les transcrivent en texte. Ce texte, il va où? Je pense qu'à ce moment-là, ils sauront encore plus de choses de ta vie privée, puisque là, on voyait la vidéo de la maman qui donne à manger à la fille. Donc, on sait qu'il y a une maman, qu'il y a une fille, puis qu'il y a un papa. Du coup, tu vois, c'est pas un petit garçon, c'est une petite fille que tu as cette fois. Tu vois, pour moi, en fait, tout ça, c'est bien, mais Google va garder la main sur nos données et encore en plus grosse quantité, même si c'est un peu moins par personne, et encore j'en doute, ils vont garder la main sur nos données personnelles. Donc la Google I.O. était très axée autour de la vie privée, mais je pense qu'ils vont bien nous avoir là-dessus.
Ouais, non, c'est pas faux. Ouais. Écoute, sur cette note, je te propose qu'on enchaîne parce que tu vois, on est déjà à 35 minutes d'émission.
Ouais,
À
je
ce
t'avais
train-là,
dit qu'on ne dirait pas 20
on va
minutes.
faire 3 heures.
Ouais. On parle un petit peu d'Android Q. Tu l'as rajouté, je crois. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette nouvelle version du système d'exploitation de Google?
Ouais, alors plein de petits changements à la marge, rien de révolutionnaire, hein. Le mode nuit, comme tu le dis, donc la possibilité d'avoir toutes les applications, ça va prendre un petit peu de temps, mais assez rapidement toutes les applications à la fois avec le thème sombre et le thème clair, un peu comme Mac l'a fait avec la nouvelle version de macOS. Bon, voilà. Après, pareil. Ce qu'ils avaient annoncé à l'époque, le digital well-being, un petit peu plus approfondi pour essayer de faire en sorte que tu sois pas l'esclave de ton téléphone, mais que tu puisses de temps en temps décrocher un peu. Oui, j'ai vu que tu avais mis aussi, tu parles de contrôle parental renforcé. Donc ouais, c'est des trucs qui m'intéressent moyennement parce que je suis pas directement concerné, mais bon voilà, donc il pousse beaucoup dans cette direction-là. Il y a des petites améliorations au niveau de la comment ça s'appelle? La fiche de partage, tu sais, quand tu veux partager une page ou un lien avec vers une autre application. Par exemple, tu étais sur Chrome et tu veux partager un truc sur Twitter ou ce genre de choses. Il y a des petites améliorations en termes d'efficacité qui ont été faites. Mais voilà, mais finalement, enfin moi, mon impression, et corrige-moi si t'as l'impression que c'est différent, mais je pense que c'est quand même plus une évolution qu'une révolution, et beaucoup d'ajustements en fait on sont faits un peu à la marge et c'est pas forcément révolutionnaire. Tout devient juste un petit peu mieux, mais il y a rien d'extraordinaire. L'innovation, elle est surtout autour de ce dont on a parlé au tout début, c'est-à-dire assistant et puis les histoires de live caption et de ouais, c'est ça, de
Moi, je suis
transcription
d'accord avec toi.
automatique.
C'est plus des améliorations, mais qui vont dans le bon sens. Le mode nuit, enfin, moi, j'utilise dès que je peux. Moi, je l'utilise sur Twitter, je l'utilise sur mes mails. J'ai même intégré sur le site mychromebook.fr, j'ai intégré un mode nuit. Je trouve ça plus agréable à lire, surtout la nuit, étonnamment. Ça m'agresse moins le regard. Tous ces fonds blancs, je trouve ça tellement, tellement brûlant. Enfin, ma rétine brûle à chaque fois que j'ouvre un site internet. Donc je trouve ça bien et comme tu le dis, c'est juste des évolutions mais qui sont intéressantes et la grosse évolution, c'est le fait d'avoir notre assistant dans la poche et qui fonctionne super bien visiblement. Moi, j'ai hâte de le tester. L'assistant en ligne uniquement à partir d'Android Q, donc si vous avez un Huawei, oubliez, c'est fini. voilà, donc j'ai rien de plus à dire moi sur Android. Tout ce que je sais, c'est que le mode nuit va aussi arriver sur Chrome OS. On va avoir plus en plus de connexions entre Chrome OS. Là, j'ai vu ce matin avant de commencer l'enregistrement qu'un mode de. Alors, pour l'instant, c'est une piste de réflexion. C'est des pistes qu'on a, enfin des bouts de code qui ont été trouvés par-ci par-là. On aurait peut-être la possibilité, je dis, c'est du conditionnel tout ça, de prendre et d'appeler depuis le Chromebook. Directement, téléphoner en fait depuis le Chromebook directement. Alors pour l'instant, c'est encore que des rumeurs.
D'accord.
dans la continuité, puisqu'aujourd'hui, quand t'es dans le Team Pixel, quand tu as un Pixel, un smartphone Pixel, que t'as un Chromebook, en fait, les deux sont liés aujourd'hui via la possibilité de déverrouiller ton écran, enfin, ton Chromebook via quand ton Pixel est à proximité. Tu as la possibilité d'envoyer des SMS directement depuis ton Chromebook. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre truc. Ah oui, le partage de connexion instantané, instant ring qui est lié dès que t'as plus de connexion Wi-Fi, il se connecte automatiquement à ton Pixel. Donc, en fait, c'est une continuité de ça. Donc, des petites évolutions. Ils nous ont pas parlé beaucoup de Chrome OS pendant la keynote de présentation. Par contre, on en a parlé beaucoup tout au long de la semaine du Google I/O. Mais ça, personne n'en a parlé. Et le code source a été vu hier soir, je crois. Donc, ça peut être une autre nouvelle. Et peut-être avec Android Q, justement, toute cette interconnexion entre les produits qui peut-être arriver avec ça. Donc, moi, j'attends. Je suis très curieux. T'as déjà testé Android Q, non? Il y a la bêta,
ouais.
Je crois.
Je crois que j'ai la bêta 2 sur un de mes pixels. Mais là, du coup, on va parler du Pixel 3. Là, sur le Pixel 3, j'utilise pas la bêta, en fait. Mais je pense que je vais l'installer après le week-end. Comme ça, s'il y a un problème, je veux quand même être capable d'utiliser mon téléphone pendant le week-end. Mais je pense que dans la semaine, je passerai sous la bêta.
Disponible pour le 3?
Ouais. T'as raison en fait. Non, t'as raison, pas le 3. Le 3, elle sera disponible que cet été. C'est vrai, je me rappelle maintenant. Donc d'accord. En fait, non. Bon. mais par contre, sur le Pixel 2 ou Pixel 3, là pour le coup, et Pixel 2 XL et Pixel 3 XL, là pour le coup, elle est disponible. Mais pas les 3A ou 3A XL.
Alors parlons un petit peu du Pixel 3A, puisque comme toi, j'ai acheté... Alors t'as pris le 3A ou le 3A XL ?
Eh ben j'ai pris le 3A, et j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas pris un petit téléphone. Pour l'instant ça va, je suis pas...
Ça va, tu t'en sors ?
Je survis. J'ai pris le 3A. Et toi, tu as pris lequel ?
Le 3A également, parce que je n'aime plus les gros téléphones. Hein. C'est comble, hein, mais j'en ai marre d'avoir ces gros produits dans la main où je peux pas, comme dirait Steve Jobs, un bon téléphone tactile, avec ton pouce, tu peux aller de l'angle en bas à droite à l'angle en haut à gauche. Ça, c'est un vrai téléphone. Hein. C'est un produit que tu peux vraiment utiliser. Les gros, je trouve ça trop gros, en fait. C'est pas ma came. Donc, du coup, je suis très heureux d'avoir le 3A. J'en parle un petit peu, tu me diras toi ce que t'en penses en même temps. Pourquoi j'ai pris le 3A déjà? Parce que j'ai un Chromebook et je voulais tester l'interconnexion entre mon Chromebook et mon Pixel et mon smartphone, et c'est vraiment génial. J'ai rien eu à faire, c'est juste bluffant. Déjà passé j'étais sur Huawei juste avant le P20 Pro, et passé de l'un à l'autre a été d'une simplicité à toute épreuve. Je sais pas comment il a fait. C'est même un peu flippant, mais il a tout récupéré ce que j'ai, c'est-à-dire tous mes mots de passe que j'avais mémorisés. J'utilise un gestionnaire de mots de passe évidemment, mais même ceux que Google avait récupérés et que j'avais pas forcément mémorisés sur mon ancien Huawei, j'ai récupéré tous mes accès Wi-Fi, tous les codes Wi-Fi en fait où j'étais. J'avais peur de devoir retaper tous mes clés Wi-Fi partout. Il les a récupérés. Alors là, j'étais vraiment étonné. Bref, la transition entre deux produits a été d'une simplicité hors norme. Ça m'a pris 10 minutes. Le plus long, ça a été de télécharger les 828 applications que j'avais téléchargées. Donc là, j'ai fait le tri, j'en ai vidé quelques-unes. Mais c'est tout. Donc j'ai fait ça pendant mes vacances, et j'avais autre chose à faire. Donc je l'ai posé, et 10 minutes après, j'avais terminé, quoi. C'était
ouais,
réglé.
Ouais, c'est
assez rapide. Et après, j'ai utilisé le téléphone. Alors, je vais déjà commencer par les choses qui fâchent. C'est un petit téléphone, donc si vous aimez pas les petits téléphones, c'est pas la peine de passer sur celui-ci. Il est pas borderless. C'est peut-être le chose qui peut gêner certaines personnes. Moi, ça ne me gêne pas du tout, étonnamment. Faut dire que sur mon Huawei P20 Pro, j'avais enlevé l'encoche en fait. Donc du coup, il était borderless, mais pas vraiment, puisque j'avais masqué l'encoche via un fond noir. Donc du coup, j'avais la même chose que si j'avais un écran sans bordure. Et qu'est-ce qu'il y a pas dessus? L'appareil photo selfie ultra grand angle qui n'a pas la charge sans contact et il pend en vert. Voilà, ça c'est ce qui peut fâcher certaines personnes. Par contre, ce qui me plaît bien, moi, c'est qu'on a récupéré le jack 3.5. Alors pour certains, c'est une aberration sans nom. Pour moi, c'est intéressant. J'ai beaucoup de trajets, donc j'aime bien avoir un kit filaire de temps en temps, parce que mes kits piétons Bluetooth, à un moment, ils ont plus de batterie pendant mes trajets, donc ça me permet de continuer continuer à écouter ma musique ou regarder des films, alors pas trop, mais écouter la musique principalement ou les podcasts. Qu'est-ce que j'aime bien sur ce produit? La photo est bluffante. C'est vraiment bluffant. Ils ont gardé ce que le Pixel 3 avait de génial. Ils l'ont intégré dans le téléphone, dans le Pixel 3A. Alors, pour le prix, franchement, c'est le meilleur photophone, je pense, qu'on ait sur le marché aujourd'hui, ouais. À un prix correct.
Au-dessous de $500, on va dire.
Il est à quoi? 399 euros, je crois, en France. Ouais. Il doit être à $399 aux États-Unis, il me semble.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Pour ce prix-là, c'est franchement bluffant. J'ai pas testé le mode nuit parce que je suis pas un nocturne. Puis j'ai pas envie de sortir. Moi, j'habite en campagne, alors. À part une belette qui court dans le bois, faut pas ce que je vais prendre la nuit. Donc il faut que je sorte, machin. Tu sais, et puis je suis vieux, alors je sors pas tout le temps. Par contre, les photos de selfie, de portrait, le flou, l'effet bokeh à l'arrière, mais c'est grandiose, quoi. J'ai l'impression de devenir un photographe. Et mieux encore, quand tu prends une photo, il t'en prend deux ou trois de suite, et il te propose la mieux. Quand tu prends une photo de groupe, t'as toujours un débile qui ferme les yeux ou qui tire la langue ou qui est pas bien dans la photo. Bah là, je sais pas si t'as vu toi et tu me diras ce que t'en penses après. Bah là, en fait, il me propose et d'un seul coup, j'arrive à faire des photos qui ne sont d'une part pas floues et où tout le monde a les yeux ouverts. C'est la première fois de ma vie. Ouais. Donc, je suis assez bluffé là-dessus. Et puis après, les trucs complètement qui servent à rien, les espèces d'emojis, je sais pas comment ils les appellent là. Les gifs animés que tu mets sur la photo, bon, c'est marrant, ça sert strictement à rien, mais c'est marrant et c'est bien fait, c'est super bien intégré avec l'ombre portée de la personne en fonction de la lumière. Je sais pas comment ça marche, mais c'est juste bluffant. Et après l'appareil, ce que je te disais avant la préparation, la batterie, je crois que c'est une 3000 mAh dans mes souvenirs, et étonnamment, je sais pas comment c'est. Clairement, c'est un logiciel qui gère ça, mais ma batterie, donc le soir, généralement quand j'arrive vers 22h, ma batterie elle est à plus proche des 6% que des 50% avec mes anciens téléphones. Et avec celui-ci, je suis, donc ça fait 15 jours que je l'utilise, je suis le soir en moyenne à 33% de batterie, ce qui fait que si je veux ne pas, si je fais pas trop de conneries, je pourrais redurer une journée si j'étais en déplacement ou un truc comme ça et que j'avais oublié mon chargeur. Ouais. Des choses aussi intéressantes, il n'y a pas de mode nuit, mais il y a un mode gris, mode, je sais pas comment ils appellent ça, attends, je vais le retrouver. Il y a un mode qui s'appelle nuance de gris. Il y a 50 nuances de gris, j'aurais dû l'appeler, tiens. qui est super sympa, qui passe ton écran en gris. Et j'adore en fait ça. Tout est gris en fait, à plusieurs nuances de gris. Ça donne un côté, comme le mode nuit, ce qui fait que ça ne brûle pas ta rétine non plus et qui économise énormément ta batterie. Et en plus, il y a un mode économiseur de batterie. Donc, quand je suis à 33%, que je le mets, je peux tenir encore la journée complètement avec mon téléphone. Donc, je peux presque tenir 2 jours en utilisation si je suis modéré la deuxième journée. Ouais. Donc, moi, je suis assez bluffé. Et puis, je suis très, très fan, moi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent ça, mais j'adore l'interface, le launcher de Google, très épuré. Pour moi, c'est l'idéal.
Ouais.
Je te laisse la main, je ne sais pas si t'es un peu dans le même sentiment que moi.
Ouais, non, complètement, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. En fait, en gros, pour le dire simplement, c'est juste une version un petit peu moins chère et donc forcément un peu moins bien finie du Pixel 3, mais qui en reste néanmoins bien fait et performante sur tous les aspects qui comptent en fait, parce que tu l'as dit, la photo et les photos sont géniales. En termes de performance, c'est très très proche du 3A. En termes de batterie, il semblerait que ce soit même un peu meilleur. En termes de finition, c'est un petit peu au-dessous, mais c'est la moitié du prix, donc finalement voire même moins de la moitié du prix, donc faut s'y attendre un petit peu. Honnêtement, et il est présent, il est disponible en France, donc c'est aussi le premier jour, donc c'est aussi assez génial de voir que ça y est, les pixels.
Je l'ai commandé le soir de la keynote à l'annonce, en fait, j'ai F5, alors j'ai pas de F5, refresh, et à un moment il est apparu, j'ai cliqué dessus, et il m'avait annoncé, alors la keynote je crois que c'était le 20 ou le 21, un truc comme ça,
ouais.
Non, le 17.
Je sais plus.
19, un truc comme ça. J'ai cliqué dessus. Il m'annonce que je recevrai le téléphone le 29. Donc, je l'avais commandé en me disant, c'est bien, je vais partir en vacances une semaine. Donc, le temps de revenir, il va arriver tranquille. Donc, je l'ai commandé le soir. Je partais le lendemain matin, non, le surlendemain en vacances. Je reçois un SMS comme quoi mon truc pliait, quoi. J'ai préparé mon véhicule pour partir. Et au moment où je l'allais partir, il y a le livreur qui me l'a mis dans mes mains, quoi. C'était,
Bonnes vacances. Ouais, c'est clair.
Le cadeau de vacances. C'est cool.
Le cadeau pour partir en vacances, quoi.
Ouais, c'était vraiment hyper rapide.
Du coup, t'as annulé. Du coup, t'as annulé tes vacances et t'as fait. Bah, c'est bon, je reste à la maison. Je vais jouer avec le Pixel.
J'ai fait un test. J'étais un test poussé. L'article arrive au début de semaine prochaine sur My Chromebook.
D'accord.
J'ai fait un test dessus. J'ai testé ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et vous le verrez. Et non, j'ai pas annulé mes vacances. Par contre, dans les temps morts en vacances, t'as toujours une période où il y a un flottement. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, oh, je sais pas. Bon, pendant ce flottement-là, bah, je me suis amusé avec et c'était sympa.
Ouais,
du coup, j'ai fait des photos de vacances. Je suis content parce que bon, j'avais un Huawei P20 Pro, hein, non plus. C'est pas, je faisais pas des photos de merde non plus. Hein.
Ouais.
Mais voilà, j'ai pu le tester à ce moment-là. Et c'était vraiment sympa. Donc une bonne surprise pour moi, la rapidité de vente. Je l'ai acheté sur le site Google, hein, Google.com, et du coup, il est arrivé hyper rapidement. Et en plus, le petit cadeau en ce moment, c'est qu'il te file, du coup, j'en ai 17 maintenant, et il te file un Google Home Mini avec. Maintenant, j'empile les boîtes de Google Home. Donc voilà, c'était sympa pour ceux qui n'en ont pas. Achetez-le sur Google. Il vous file ça encore jusqu'au, je sais pas jusqu'à quand, mais regardez.
Ouais.
Donc voilà, très sympa. On continue dans le matériel. Google a annoncé un nouveau hub, un Google Home. Max Hub. Ouais, c'est ça. C'est le Google Home que tu as. C'est le. Oh là là, j'y arrive pas. Thomas, aide-moi. C'est le.
C'est le même que le Google Home Hub et donc du coup qui va changer de nom, qui va s'appeler le Nest Hub maintenant, puisque comme Nicole disait tout à l'heure, j'avais un peu prédit que Google, la marque Google Home allait disparaître au profit de la marque Nest. Donc il semblerait que c'est ce qui est en train de se passer. Et donc ouais, ils ont annoncé donc une nouvelle version du Google Home Hub, mais en fait en gros, elle est un petit peu la tablette, enfin l'écran est un peu plus grand. Le haut-parleur derrière la tablette est un peu plus puissant. Et il y a une caméra aussi qui vous permet de faire potentiellement du duo. Donc duo, c'est l'équivalent de FaceTime mais chez Google. Donc vous pouvez utiliser duo avec vos contacts. Et ça coûte tout ça coûte pour $229. Donc c'est vraiment un prix très 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 compétitif. Donc voilà, donc c'est assez bien de voir que Google en gros on rajoute une couche et confirme cette nouvelle ligne de produits. Quand ils ont sorti le Google Home Hub l'année dernière, on n'était pas trop sûr de ce qui allait se passer par la suite. Donc là ils confirment, et a priori c'est un appareil qui s'est bien vendu, donc voilà, donc là c'est le grand frère le petit frère plutôt, mais qui est un peu plus grand et un peu plus puissant qui sort.
Et ce qui est intéressant, c'est que on, avec l'annonce de ce nouveau produit, t'as vu, je suis plus réveillé là, il doit être 8h, je pense. Ouais. Avec l'annonce de ce nouveau produit, on sait maintenant, c'est officiel, que Google écoute le CKB Show. Je ne sais pas si tu te souviens, quand ils ont sorti le truc, le premier, le Google Home Hub, je m'étais dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis de caméra alors que Lenovo, enfin vous l'appelez comme vous voulez, eux l'avaient fait. Et là, toi, tu m'avais dit, oui, mais question de vie privée, blablabli, blablabla, et je t'ai dit, bah, ils ont qu'à mettre un bouton physique pour fermer le capteur micro et la caméra. Et figure-toi que sur celui-ci, c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, ils ont mis une caméra, et un bouton physique. Tu crois pas qu'ils nous écoutent? Moi, je pense que c'est.
Si.
On se dit, Google, ils écoutent tout le monde. Donc, du coup, je sais pas si c'est flatteur, si c'est que nous qui les écoutent, mais je trouve ça très intéressant qu'ils aient aussi misé sur la vie privée avec un bouton physique pour couper physiquement et le micro et la cam. Moi, je trouve ça vraiment intéressant.
Sachant que c'est, y a des gens qui faisaient le commentaire. Donc, ouais, tu dis bouton physique, et c'est vrai, c'est vraiment un bouton physique. Donc, ça veut dire que tu peux pas en gros, t'es obligé de physiquement le toucher pour pouvoir le déconnecter. Tu peux pas faire ça à distance via logiciel. Mais après, il y a quand même des gens qui disaient, et je suis assez d'accord finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste mis un cache, en fait, au lieu de s'embarquer
cache,
avec
tu
un.
Tu coupes pas le micro?
Bah ouais, c'est ça, mais du coup tu pouvais mettre un cache sur la caméra et trouver un moyen de déconnecter le micro.
On bref. Est d'accord,
ouais. Ouais, mais c'est
ouais, quand tu caches, ouais.
Mais en tout cas, t'as raison, ils ont clairement les questions de vie privée en tête en proposant ce genre de fonctionnalité et en parlant surtout pour bien dire et vous affolez pas, vous pouvez déconnecter la caméra et le micro à tout moment grâce au bouton physique. Donc voilà.
Et ce qui est intéressant aussi avec l'annonce de ce nouveau produit, c'est que du coup, il est disponible à la vente, je crois tout de suite, hein, il me semble, dans mes souvenirs. Je crois que tu peux déjà l'acheter aux États-Unis. Je suis pas sûr, mais tu me rediras. Mais l'ancien, du coup, a baissé un petit peu en prix. l'ancien, le nouveau fait 10 pouces, et il est disponible en France, l'ancien, pas de nouveau, hein, par contre. L'ancien, ça y est, vous pouvez aller l'acheter chez Darty Boulanger, il est disponible à la vente, donc si vous voulez le vieux en 7 pouces, sans caméra, sans bouton physique, vous pouvez. Donc c'est dommage qu'on ait accès qu'au vieux, je comprends pas pourquoi ils ne commercialisent pas les deux en même temps directement, parce qu'il n'y a pas de problème. Avant, quand Assistant n'était pas disponible en français, je veux bien le croire, mais aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que moi, je voudrais bien celui-ci, parce que 10 pouces, ça me semble être intéressant. Ils l'ont vendu comme étant une petite télé d'appoint pour ta cuisine. Dans la vidéo, ils te le montrent comme ça. Mmh. Je trouvais ça intéressant. Et un truc que j'ai trouvé très sympathique, t'as vu Minority Report, le film ?
Où
le mec il fait des gestes et puis l'écran il intervient, il interagit avec lui. Et ben ils ont intégré un système de gestuelle. On voit la petite dame en train de cuisiner avec elle est loin de son machin. Elle lève la main pour prendre. Elle coupe la musique pour prendre l'appel en cours.
Ouais. Alors en pratique, j'ai vu et ça a bluffé tout le monde quand ils ont fait la démonstration. Pour être très honnête, en pratique, je serais curieux de voir comment ça marche quand même. Et je serais pas étonné que, au moins en tout cas au début, que ça marche pas forcément aussi bien qu'ils le disent. Mais à voir.
Tu vois, moi je suis pas un gros gamer, mais j'ai la Xbox One machin, enfin, et j'avais l'autre juste avant où il y avait le Kinect. Il marchait super bien pour jouer.
Ouais.
Technologie comme ça intégrée, je sais pas où ils sont allés la chercher, si c'est eux qui l'ont déployé ou pas, mais ça marchait bien, je levais la main, ils voyaient que je levais la main.
Ouais, non mais je suis d'accord, enfin dans le principe, hein, je dis pas que c'est impossible et qu'ils peuvent pas le faire marcher, mais je dis juste que, tu vois, si ça marche qu'une fois, enfin si ça marche 9 fois sur 10, bah ça veut dire qu'une fois sur 10 ça marche pas. Et ouais, peut-être un petit peu, mais bon, à voir. En tout cas, c'est clair que c'est bien. Puis il y a un autre truc aussi, il y a un timer, enfin moi j'utilise beaucoup pour enfin il le présente comme tu dis comme télé d'appoint dans la cuisine. Moi c'est là où je l'ai mis, et c'est vrai que ça me sert beaucoup. Les timers me servent beaucoup, enfin les timers. C'est ça. Et là, il y avait l'exemple de se dire, quand le timer sonne, en fait, on n'a pas besoin de dire OK Google, stop. On peut directement dire stop et le timer s'éteint automatiquement.
T'as plus besoin du mot-clé pour interagir avec lui. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Mmh. Ouais, exact. On passe à un autre produit, parce qu'il y a déjà une heure d'enregistrement.
Ouais, faut qu'on enchaîne.
J'ai testé l'Asus C434. Alors, vous le savez, j'ai fait un interview avec Benjamin Collin, le directeur PDG en charge des Chromebooks en Europe, en France et en Europe, je crois. Donc, ils m'ont envoyé donc le C434 que j'ai pu tester, qui est bluffant. Je vous laisse le lien de l'article, qui est assez long. J'ai adoré le produit. C'est la taille d'un bloc-notes A4, hein, carrément. Il pèse 1 kg, 3, 4, 5 peut-être. Il est hyper fin. Il est déroutant au début, en format paysage 16/9, qui est assez étonnant. Il a un clavier rétroéclairé. Il a une luminosité phénoménal, il a une batterie qui tient toute la journée, il est beau, quand je le posais, j'aime bien travailler dans le bruit, pas dans le bruit, faut pas que j'entende ce que disent les gens, mais j'aime bien travailler dans un bar ou dans un restaurant où il y a un peu de bruit de fond, ça me permet de me concentrer, et tous ceux qui étaient à côté de moi, qui passaient, ils me disaient, ah il est beau votre, c'est un Mac, toi tu te tais, tu t'en vas, non c'est pas un Mac, c'est mieux, alors du coup j'ai passé, le problème avec ce truc, c'est que j'ai passé plus de temps à montrer, démontrer le produit, à expliquer ce que c'était, qu'à travailler. Donc à la fin, j'ai fini par plus travailler dans le bar où je travaille habituellement, parce que tout le monde me posait la question de ce que c'était. Ça a interpellé beaucoup de monde. Ils ont tous trouvé ça génial, très beau. Ils ont réussi à faire du système de borderless avec une technologie Nano Edge. Donc l'écran, il est infini. Il n'y a pas de bordure, hein, comme le fait pour les smartphones. C'est vraiment bluffant. Ce qui fait que là, je suis retombé sur un autre produit. Du coup, les bordures, je les vois, même si elles sont assez fines. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Ah oui, il est hyper fin, quoi. Il est très fin fermé, mais ils ont quand même réussi la prouesse de mettre quand même un port USB-C, un USB 3. Ce qui fait que je suis pas obligé de changer tous mes périphériques. Moi, j'ai plein d'adaptateurs USB 3, USB-C parce que la plupart des Chromebooks sont comme ça. Le Spin 13, lui que j'utilise actuellement. Mais l'autre qui est encore plus fin, l'Asus est encore plus fin, et t'as quand même ça, et c'est vraiment bluffant. La caméra a un super grand angle aussi, la webcam pardon, et non bref, j'ai été séduit par le produit. Il faut quand même que je lui trouve un défaut, et il y en a un de taille, c'est que, alors moi c'était pas un défaut parce que je ne regarde pas mon clavier quand je tape dessus, parce que les touches, enfin, j'ai appris un truc il y a quelques temps, c'est que le A, quand j'ai pris mon clavier, il est toujours au même endroit. Une fois que je sais où il est là, en fait. Il bouge jamais. C'est bluffant, hein. Ils sont très, et du coup, je ne regarde plus mon clavier. Par contre, j'ai passé le Chromebook en test à une personne qui était pas très à l'aise avec un clavier. La journée, elle voit pas les touches. En fait, ouais. Ils ont fait les touches sont de la même couleur que le châssis, donc un gris pâle, et l'écriture sur la touche est blanche. Alors du coup, ce qui fait que quand c'est pas rétroéclairé, enfin en journée même si c'est rétroéclairé, en fait on distingue très difficilement le caractère sur la touche.
Ouais, c'est pas terrible, voilà. Ça.
C'est le seul défaut que j'ai trouvé, mais moi perso, ça m'a pas gêné du tout, hein, puisque je m'en fiche en fait. Sincèrement, je ne regarde pas mon clavier. La seule fois où je le regarde, c'est pour être sûr que j'appuie bien sur volume haut, volume bas, parce que voilà, je fais pas ça souvent non plus, et je l'ai pas forcément j'ai pas mémorisé, mes doigts m'ont pas mémorisé leur emplacement pour ça. Mais toutes les autres touches, je les regarde jamais, donc c'est rare que je regarde mes touches. Donc du coup, ça m'a pas gêné, mais certaines personnes moins à l'aise auront plus de difficultés. À utiliser le clavier. D'accord. C'est le seul défaut. Après, le trackpad est très intéressant, mais encore une fois, il y a un petit clic plastique. Enfin, pourtant, il n'est pas en plastique, mais il y a un petit clic qui aurait pu être. Si Apple l'avait fait, le clic aurait été joli. C'est ça que je veux dire. Le bruit aurait été sympa. Là, il l'est un peu moins. Bon, bref. D'accord. Mais sinon, c'est un très très beau produit, rapport qualité-prix assez exceptionnel. Franchement, si j'avais eu le choix aujourd'hui, je pense que je l'aurais gardé. Je l'aurais gardé parce que c'est vraiment un beau produit design. Il est super bien conçu, il est super joli et il correspond totalement à mes attentes. Mais bon, voilà, je l'ai pas gardé, on me l'a pas donné, on me l'a prêté.
Et du coup, juste pour tu parler du prix, donc deux configurations, c'est ça, une configuration avec un Intel i5 et une configuration avec l'Intel M3.
Ouais, avec le M3, on est à 500 €, aux alentours de 500 €, puis avec l'i5, celui que j'avais, on est au proche des 600, 700 €, quoi.
Ah, c'est, alors attends, j'ai vu 699 et 819 sur l'article que tu as posté.
Ah, je sais plus. Ouais, bah oui, c'est possible alors.
Un petit peu plus que ça, ouais. Donc 819 pour le plus gros et 699. Donc c'est, on mais est dans du haut de gamme, mais oui, ça reste abordable pour ce genre de machine, quoi.
Ouais, il est beau, hein. Si on cherche, si on a un petit peu de moyens, mais rapport qualité-prix, tu prends un autre produit, un autre constructeur, un autre système d'exploitation, ça va te coûter une blinde, hein. Là, j'ai eu aucune souffrance. J'ai lancé tous mes onglets, j'ai réinstallé mes applications Linux, j'ai réinstallé mes applications Android. Encore une fois, c'était hyper intuitif, hyper simple. C'était vraiment génial. Enfin, et l'utilisation au quotidien, en fait, ça te fait oublier le prix. C'est comme disait prof du web. Si tu l'utilises souvent, le nombre de minutes que tu l'utilises par mois ou par jour, et tu vas voir qu'en fait, finalement, ton produit, il est pas cher, en fait.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, pour moi, il ne correspondait pas à un produit cher, mais un produit qui était, j'étais presque heureux et fier de le sortir, parce que tout le monde me faisait des compliments dessus, tu vois. C'est le côté ego, l'ego qui ressort. Ouais, moi, j'ai un produit que personne n'a, il est magnifique en plus. Mmh. Et j'ai converti pas mal de monde au Chromebook grâce à celui.
D'accord.
Donc, ils ont pas pris celui-ci, mais ils ont pris d'autres produits et, ça plaît, il plaît, il est beau, et je peux te dire que si tu fournis ça aux professionnels, tu sais, ceux qui ont des MacBook Pro et puis qui en fait ils font que du tableur.
Ouais.
Et ben tu leur fournis ça, je suis sûr qu'ils seront contents de l'avoir au même titre qu'ils avaient leur MacBook Pro sous le coude.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Parence qu'autre chose en fait. Oula, pour moi, un beau produit. J'en ai testé deux, je suis content. T'en as testé un autre. On parle un peu des nouveaux smart clocks ou
on parlait donc tout à l'heure des hubs, des Nest hubs. Donc le Lenovo smart clock, c'est un petit peu dans la veine des smart display. La gamme de Google Home, donc qu'on appelle plus Google Home a priori maintenant, avec des écrans. Donc Lenovo en avait sorti un il y a un peu plus d'un an. Et donc là, le Lenovo Smart Clock, c'est quelque chose qu'ils avaient annoncé au CES en janvier. Et a priori, donc ils devaient le lancer en janvier, puis en février, puis en mars, et puis on n'en entendait plus trop parler. Et puis là, il a refait surface. Donc a priori, il devrait sortir en juin. C'est en gros, pour le dire simplement, c'est imaginez un réveil avec un bel écran de je sais combien, 5-6 pouces, voire plus que ça, et puis Google Assistant, donc voilà. Moi, j'ai vraiment trop de Google Assistant, donc j'avoue, j'ai passé mon tour sur celui-ci, mais si ça avait pas été le cas, je pense que je l'aurais acheté parce qu'il a l'air vraiment chouette.
Il est pas cher, il est annoncé à aux alentours de $80 avant les taxes.
Voilà, ouais, donc ça reste très
Ça,
abordable.
ça. Par contre, c'est vraiment un réveil, hein. C'est 4 pouces l'écran, hein.
Ah, c'est 4
Il est plus
pouces,
petit que mon téléphone, hein.
ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout petit. Mais par contre, il me semble que les enceintes sont assez, enfin
C'est
le
ouais.
son est assez bon. Donc voilà, mais ouais, c'est fait pour finir sur votre table de chevet. C'est clair que ça sert pas à grand-chose d'autre.
Et ouais, c'est plus petit qu'un cadre numérique, pour ceux qui s'en souviennent, tu sais,
Ouais.
on en vendait plein. Ouais, voilà, ok, on parle un petit peu sécurité aussi, on sort un peu du matériel, mais on va parler sécurité. Vous avez entendu tous parler de la faille Meltdown et Spectre, donc ces deux failles qui étaient pas très sympas pour nos ordinateurs, qui touchent les processeurs Intel, donc aussi les Chromebooks. Google vient d'intégrer un correctif supplémentaire qui il bloque l'hyper-threading, je crois, un truc comme ça, dans mes souvenirs. Donc, si vous voyez que votre Chromebook est un petit peu plus lent qu'à l'accoutumée, vous inquiétez pas, c'est que vous êtes passé sur la nouvelle version de Chrome OS, donc à partir de la version 74, et Google a bloqué ça pour éviter de vous faire hacker votre Chromebook. Donc, on perd un petit peu en fluidité, mais on gagne en sécurité. Ceci dit, Google permet de réactiver, si on veut, cette fonctionnalité, donc, et ouvrir à tout vent notre appareil aux différentes failles. Donc, après, c'est vous qui voyez, il vous donne la main dessus. Allez sur le lien que je vous ai mis dans les descriptifs de l'article, ça vous explique complètement ce que c'est. Et puis, si vous les réactivez, ben, je vous explique comment en faire. Attention, encore une fois, c'est à vos risques et périls parce que c'est une faille et elle peut faire des dégâts. Ça va, c'était rapide celle-là, hein. On n'a pas.
Parfait.
Voilà. On aborde le prochain sujet ou tu veux pas en parler?
Allez, on en parle pendant 5 minutes parce que nous, moi, j'ai eu l'occasion d'en parler pendant quasiment 1 heure avec les compères canadiens. Donc, vas-y,
Ouais.
je
Bon,
sais
alors.
que tu as besoin d'en parler. Donc.
Ouais, et c'est pour moi c'est un peu Dallas, c'est un peu un feuilleton que je vais suivre et qui me plaît beaucoup par tous les aspects que ça peut avoir. Je vais vous parler du scandale du siècle. Je l'appelais comme ça parce que pour moi c'est sensiblement ça. C'est une guerre nucléaire qui est en train de se déclarer, mais commerciale et ça peut porter, ça peut avoir une portée énorme. Je vous parle évidemment de la guerre entre les USA et la Chine. Donc Donald Trump qui signe un décret ou qui un décret pour arrêter tout service commerciaux entre les entreprises américaines et les entreprises chinoises. Et en tête de liste, on a Huawei et la marque Honor, qui sont à eux deux, enfin Huawei déjà deuxième constructeur mondial, et Honor se pointe pas très loin, donc dans le top 10 aussi. Donc en soi, c'est un très très gros constructeur. Et moi, ça, c'est un, j'aurais aimé faire le podcast avec vous parce qu'en fait, j'ai plein plein de questions, toutes se resteront sans réponse. Ça me porte, ça me dit qu'en fait, on, je sais même pas comment m'exprimer tellement j'ai de choses en tête. Par l'ambition d'une personne, en fait, on redéclare une guerre. Hein. C'est à nouveau toutes les guerres mondiales ont commencé comme ça. On a tué une personne parce qu'il n'était pas d'accord. On a eu des problèmes commerciaux avec et on crée des guerres comme ça. Je vous parle de l'Irak, hein, sur des présomptions de je sais pas quoi, on va les attaquer. Ben là, sur une présomption de Huawei nous espionne grâce à la 5G, on bloque leur commercialisation et on essaye de les mettre à mort. Hein. Clairement, là aux dernières news, il y a Intel qui travaille plus avec Huawei. Il y a Qualcomm, il y a Broadcom, il y a donc Google, Microsoft. Maintenant, il y a ARM qui ne travaille plus avec. Donc, en fait, on asphyxie complètement un constructeur entier sous prétexte qu'il nous espionne, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun procès qui a encore été lancé. Et ça, c'est étonnant. Et je sais que Google, en off, travaille pour justement lever cette restriction. Ils ont obtenu 90 jours de répit, mais en attendant, ils se plient au décret et ils arrêtent la commercialisation de tous leurs services, de tous leurs supports à Huawei. Ça veut dire que plus d'Android Q pour les prochaines versions, plus de Google Play pour les prochaines versions, les prochains produits, plus aucun service Google. Ça montre que Google est puissant puisqu'il va interdire un service mondial, le premier service au niveau mondial. Sur les smartphones, ça montre que que Huawei, ben, s'ils ont réfléchi à tout ça, ils vont peut-être sortir un autre système d'exploitation qui va rivaliser avec Android. Ça ouvre peut-être de nouvelles voies, de nouveaux systèmes d'exploitation. Ça ouvre peut-être la voie à un autre géant. Alors, Huawei n'a pas besoin de Google. Google a besoin de Huawei. Alors, c'est ça qui est assez intéressant. Huawei fait 50% de son chiffre d'affaires en Chine. Google a besoin de ces 50% puisque, enfin, a besoin de Huawei puisqu'il est deuxième constructeur mondial pour continuer à évoluer. Donc on voit que ça, c'est pas propre à Google, hein, c'est vraiment, il se plie au décret. Et d'ailleurs, il travaille en off pour faire du lobbying sur le gouvernement américain pour essayer de lever cette restriction. Je sais pas quoi dire, tellement il y a de choses. c'est vraiment très intéressant et je vais vous laisser dans les commentaires me poser vos questions, donner vos interrogations, essayer d'ouvrir les champs des possibilités autour de cette guerre. Moi, la question la pire que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, par l'ambition d'un seul homme, on bloque un pays. Quand sera-t-il quand Donald Trump ou le prochain président américain dira « Ouais, mais moi, je veux plus vos voitures Peugeot ». Donc en fait les pièces que vous avez grâce à nous, ben on vous les fournit plus, je vous les commercialiserai plus chez nous, je veux plus de votre intelligence à vous, je veux plus de vos fusées, je veux plus de, tu vois, en fait je me dis que en fait on peut juste parce qu'il y a un mec qui a décidé, on peut nuire à toute une économie globale, ouais. et à une société entière. Et si, admettons que Huawei arrive pas à se relever, c'est 180 000 personnes qui resteront sur le carreau, juste parce que le mec, il a décidé que, ouais, alors s'il a des preuves, très bien, il a peut-être raison. S'il a pas de preuves, on a déjà vu les États-Unis faire des choses sans preuves. Et puis à la fin, se dire, ah, au fait, on s'est trompé. Voilà, et je suis interrogé, et nous, Européens, on est alliés des États-Unis, enfin, en tout cas, la France est alliée des États-Unis, et on est obligé de suivre le mouvement si on veut pas se mettre à dos les États-Unis, et on a notre président qui dit « Non, mais non, moi, Huawei, allez-y, continuez, pour l'instant, j'ai pas de problème avec eux ». On voit que l'Angleterre s'est désolidarisée des États-Unis, qui voulait aussi interdire le réseau 5G de Huawei, et finalement sont revenus sur leur dire, et on dit « Non, mais non, Huawei nous a donné toutes les garanties nécessaires, on va les laisser travailler ». Il y a aujourd'hui les États-Unis, l'Australie, je crois la Nouvelle-Zélande, je suis pas sûr, qui sont contre la Chine. Ça peut être une nouvelle guerre mondiale, en fait. Alors, il n'y aura pas de mort, pas de mort physique, mais par contre, il y aura des pertes d'emplois, il y aura des pertes de revenus, et la Chine peut contre-attaquer en disant, bah écoute mon gars, ok, bah ce que je vais faire, c'est que tu coupes les vivres à Huawei pour les États-Unis et le reste du monde, finalement, puisqu'en me donnant pas la possibilité d'avoir du hardware, bah je peux plus le proposer. Donc bah, moi, ce que je vais faire, c'est que mes Nike que je fabrique en Chine, bah en fait, je vais te les vendre aux États-Unis. Sauf que je vais te les vendre au prix américain, c'est-à-dire que tu achèteras plus tes Nike 100 balles, mais tu les achèteras 500 balles. Ouais. La Chine a quand même un pouvoir économique important et peut faire basculer la balance économique du tout au tout, en fait. Aujourd'hui, grâce à la Chine, entre autres, alors c'est pas bien parce que on fait travailler des enfants, tout ça, donc il y a un juste prix à avoir, mais n'empêche que la Chine a fait baisser les prix sur pratiquement tout. Demain, si elle a envie de le faire évoluer, bah, elle peut le faire évoluer, quoi.
Ouais, puis on touche aux aspects géopolitiques de la chose. C'est vrai que c'est un peu à double tranchant parce que, bah, mine de rien, les États-Unis ont besoin de la Chine de la même façon que la Chine a besoin des États-Unis et le reste du monde est un petit peu, le reste du monde a besoin que les deux s'entendent à peu près correctement. Et là, c'est clair que, il y a un petit peu de sable qui a été jeté dans les rouages, quoi. Donc, à voir un peu comment les choses évoluent. Il y a une chose qui est claire pour conclure. Je pense que c'est probablement pas la dernière fois qu'on vous en parle dans ce podcast. Et qu'il y a de grandes chances pour que le prochain épisode, les choses aient un petit peu évolué et qu'on y voit un petit peu plus clair sur la question.
Pour moi, ça fera précédent. Clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je suis développeur d'applications pour smartphone ou que je ferai en sorte de ne plus être tributaire des États-Unis.
Ouais, non, c'est clair.
Moi, je vais essayer de faire du total chinois. Au moins, j'ai la main dessus. Au moins, le gouvernement chinois va pas m'empêcher de faire mon produit. Si je suis français, en l'occurrence, c'est le cas, en fait, je ferai en sorte, même si aujourd'hui, je vais utiliser tous les produits américains, mais dans l'industrie, je ferai en sorte de ne pas être tributaire d'un produit venant d'un pays externe au mien. Bon, après, c'est bien, c'est... on va relocaliser peut-être.
Après, c'est extrêmement compliqué à faire à 100%, en fait, quoi. C'est facile à faire à 90%, mais c'est difficile de faire ça à 100%. On sait plus trop faire ça, quoi. Dans les années, dans les années 40 ou dans les années 30, c'est pour ça qu'il y a eu des guerres mondiales, d'ailleurs. C'est parce qu'on arrivait à avoir globalement une technologie ou une industrie qui était quasiment localisée à 100%. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et dans tous les cas, c'est vrai que ce qui a été dit sur Huawei était assez intéressant parce que, ok, ils nous vendent des téléphones, mais ils nous achètent, enfin, ou en tout cas, ils achètent aux Américains, de la technologie, des microprocesseurs, etc., etc. Donc finalement, en fait, tout le monde achète à tout le monde, quoi. Les voitures les plus fabriquées aux États-Unis, c'est des Honda, quoi. Donc voilà, ça veut tout dire, quoi. Les voitures les plus fabriquées aux États-Unis, c'est des voitures japonaises, quoi. Donc c'est vrai que oui, c'est assez intéressant et en même temps assez inquiétant, ouais. Je pense que c'est un mot un peu fort.
Et ça aura des répercussions sur tout le monde. Tu le dis, les voitures, mais là je vais retourner sur un autre univers. Ça va toucher aussi Apple.
Ouais.
Ça va toucher tous les constructeurs de tout et n'importe quoi, en fait. On oublie, alors c'est pas chinois, mais on oublie qu'Apple, il y a du Samsung, il y a plein de choses dans un Apple. Et voilà, tout ça, c'est assez bluffant. Et moi, je suis très très curieux de voir comment ça va continuer et ce que ça va, la finalité de tout ça. On le saura dans quelques mois, années peut-être. Mais ça va faire, à mon avis, certains ils vont y laisser des plumes et ça pourrait être Google. Et peut-être que ils avaient vu le vent tourner Google et peut-être pour ça qu'ils ont sorti le Pixel 3A.
Ouais. Ouais,
alors parce après... que sur une gamme de prix équivalente à Huawei, donc c'est peut-être un moyen de se dire bon ben faut vite qu'on sorte notre propre produit fabriqué par nous pour nous et qu'on essaye de positionner notre marque parce que on va plus pouvoir vendre du Huawei et ils sont deuxième mondial. Et moi je pense que Huawei a les reins solides et va proposer ça plaira pas aux technophiles, mais ça va plaire à 80% des gens qui ne sont pas technophiles. Un smartphone pas cher avec des applications qui marchent, c'est tout ce qu'ils ont besoin, en fait. Peu importe que le navigateur s'appelle Chrome, peu importe que le GPS s'appelle Maps ou Mappy, peu importe que le store s'appelle Google Play Store ou il y en a un qui est en train de monter qui s'appelle Aptoid, qui est en train d'essayer de se positionner, peu importe le nom, tant que ça marche, les gens ils sont contents. On le voit, on achète des voitures qui s'appellent les voitures de chez Renault, Dacia. Peu importe les gens ce qu'ils voulaient, c'est une voiture. Peu importe qu'elle s'appelle Dacia ou Renault, ils veulent une voiture pour aller d'un point A à un point B. Et Dacia est l'une des marques les plus vendues en France, en tout cas, peut-être en Europe, je sais pas. Mais tu vois, on s'en fiche de savoir qui fait quoi. Tout ce qu'on veut, c'est que ça marche. Et les gens lambda, les 80% des utilisateurs et des consommateurs, c'est pas les mecs comme toi et moi qui achetons pour 1000 euros de produits tous les mois. Nous, on change tout le temps. Eux, ils changent pas. De quoi ?
Je disais 1000 euros ou plus tous les mois.
Et c'est ça. Mais c'est ça, beaucoup plus. C'est une dizaine de milliers d'euros qu'on achète.
C'est ça.
J'ai peut-être abusé en 1000 euros par mois.
Un petit peu.
Okay. Ouais, genre.
Sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Il est fait sur. C'est les gens qui achètent. Pas cher, en grosse quantité, qui font le marché. C'est pas les mecs qui achètent un produit. On voit Apple, ils vendent des produits chers, ils sont pas leaders du marché. Ils ont des gens, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont pas leaders du marché en termes de vente. Et le nom, la notoriété Apple n'a pas la même. Les gens me disent non, mais moi, quand ils achètent un téléphone autour de moi, ils me disent non, mais j'ai pas besoin d'un iPhone. Non, en fait, j'ai besoin d'un téléphone. Ah, ok, d'accord. Et on le voit, ce qui est le plus vendu dans le monde, c'est tout sauf des iPhones. Il y a des iPhones de vendus, je suis d'accord. Ils ont une place prédominante. Ils ont un statut, mais c'est pas eux qui sont le plus vendus. Et donc, Huawei, je pense qu'ils ont la capacité, d'une part, d'avoir un système d'exploitation, un fork d'Android sans aucun problème. Ils ont la possibilité d'avoir des applications, et des alternatives, comme à travers ta voix, je disais qu'on pouvait avoir des raccourcis aux applications en PWA. Et peu importe, après ils vont signer des accords avec Qwant, ils vont signer des accords parce que nous la France on n'est pas contre eux en fait, ils feront ce qu'ils veulent en fait. De toute façon on est obligé de faire avec eux parce que la 5G il y a qu'eux qui font des antennes 5G de carré pour l'instant de qualité. Nokia je crois a abandonné le truc, je suis pas sûr. Ah non ils ont pas abandonné d'ailleurs, j'ai vu un projet ce matin, mais tu vois ils sont leaders, donc on peut pas se passer d'eux, ils le savent et ils vont pouvoir. Pour moi, celui qui a le plus à perdre, c'est Google. Donc Google, c'est mon avis, va commencer à se dire, tiens, on va faire nos propres produits, et c'est le cas, hein, le Pixelbook, Pixel Chrome, Pixel Slate, Pixel Google Next Home, ils se lancent dans leur marché à faire eux-mêmes leurs produits, et ils achètent des entreprises, ils ont acheté HTC, ils ont acheté un Motorola à une période, ils ont gardé des brevets, bref, ils commencent à acheter du matériel et à fabriquer du matériel. Est-ce que c'est pas pour justement se libérer de la contrainte des constructeurs étrangers? J'arrête
ouais,
là.
À voir. Ouais, on arrive à 1h20 d'enregistrement. Je te suggère qu'on parle peut-être rapidement des bureaux virtuels.
Ouais, les petites prédictions qu'on avait eues qui sont arrivées. Les bureaux virtuels, vous connaissez, c'est le fait d'avoir plusieurs bureaux sur son écran. Vous les interfacez comme vous voulez. Ce qui est bien, vous passez d'un écran à un autre sans avoir à redimensionner fenêtres. Elles sont comme elles étaient quand vous avez quitté le bureau. Ça va arriver sur, alors ça devait arriver sur Chrome OS 76. Ça arrivera sur Chrome OS 77. Une autre chose, on parle des extensions Chrome qui vont disparaître de la barre. Alors, ils vont pas disparaître, les extensions, Thomas, je te rassure. Tout à l'heure, t'étais, oh, mais mince, comment ça va faire? Non, les extensions ne disparaissent pas de Chrome, bien au contraire, mais elles vont être masquées via un menu extension. L'omnibar de Chrome OS soit plus lisible, parce que si vous êtes comme moi avec 15 ou 20 extensions installées, ben sur un petit écran, on a vite plus de place sur notre écran, donc Google l'a remarqué et s'est dit, tiens, on va masquer les extensions, elles ne vont pas disparaître. Donc à voir, je vous laisse le lien dans les notes de l'émission pour voir à quoi ça ressemble, et si vous voulez le tester, vous pouvez déjà le tester, il y a une fonctionnalité expérimentale qui est disponible, qui fait pas de mal, vous pouvez voir à quoi ça sert. Juste une chose, si vous utilisez un lecteur de flux RSS avec des notifications internes dans l'extension, l'utilisez pas parce qu'elles sont masquées du coup elle sert plus à rien cette extension. Voilà, c'est juste le petit truc que j'avais pas remarqué auparavant. Dernière chose, on avait parlé sur l'avant-dernier CKB Show de Google qui voulait venir Amazon. Tu m'avais parlé de Google Express que je ne connaissais pas, qui était disponible uniquement aux États-Unis. Ben Google encore une fois nous a écoutés et n'a pas proposé Google Express en France, loin de là, mais a décidé de réunir le Google Express et le Google Home Shopping. Non, Google Shopping, pourquoi Home ? D'accord. Google Shopping, réunir ces deux trucs, ces deux entités en une seule entité en France. Et en fait, on a enfin l'équivalent de Google Express. En fait, c'est un Amazon. C'est l'équivalent du site Amazon. C'est assez bluffant. On peut commander notre salade, notre café. On a fait un test tout à l'heure avec Thomas. Ce qui est étonnant, c'est les lieux d'où ils viennent. Mais peu importe, c'est Darty qui vend du café. Donc, tant mieux. ils vendent des cafetières. Donc, pourquoi pas vendre des cafés? Donc, ils devraient vendre des filtres, tout ça, je pense. Ils vendent des frigos. Tu crois qu'ils vendent des fruits et légumes aussi? Et, ouais. Et donc, en fait, l'interface, donc, je vous ai mis aussi les liens dans les notes de l'émission, l'interface est plutôt bien pensée et encore mieux que Google Shopping, comme je vous l'ai montré l'autre fois où j'ai trouvé ça bluffant parce que ça marchait vraiment du tonnerre de Dieu. Et bien là, on a sur une interface très jolie, très épurée, très sympathique à utiliser avec différents univers, donc que ça soit tech, nourriture et compagnie. Allez jeter un œil, j'ai laissé le lien dans les notes de l'émission. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire moi sur ces prédictions. Est-ce que toi, tu as autre chose, Thomas?
Je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir.
Ouais, je te comprends. Bon, je vais peut-être aller dormir, Thomas. Moi, je vais aller boire mon café, mon 8e café de la matinée. Et Thomas, je te remercie encore une fois d'avoir participé à ce CKB Show. Non, je te remercie beaucoup aussi pour le précédent que tu as organisé, qui était juste génial. J'ai adoré. Encore une fois, j'aurais aimé être avec vous.
La prochaine fois.
J'ai trouvé vraiment l'interaction entre Pod, Mathieu et toi très, très intéressante. Je serais allé encore plus loin, mais l'épisode aurait duré 3h30. Donc, du coup, peut-être que tant mieux si j'étais pas là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thomas?
Alors, pour me retrouver, c'est le plus simple, c'est Twitter, donc @lethargicpanda sur Twitter. Et toi, Nico, où est-ce qu'on te retrouve?
Bah, retrouvez-moi simplement sur Nico Chromebook sur Twitter ou sur mychromebook.fr, vous saurez me retrouver, il y a des liens partout. Et surtout, une petite chose avant de vous quitter, sachez que le CKB Show est un podcast complètement gratuit, il le restera à vie. On fait ça parce que ça nous amuse, n'est-ce pas, Thomas?
Exactement.
Ouais, donc on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais ça a des frais. Donc si vous voulez nous aider à participer aux frais du CKB Show, on a un type où vous pouvez nous donner 1 euro, 10 euros, 1 milliard d'euros si vous le souhaitez, pour nous aider à participer à ça et qu'on puisse faire des découvertes pour vous. Vous voyez, on a acheté le Pixel 3. Bon, c'est pas grâce au Tipeee, hein, je vous rassure. Sinon, j'aurais une touche. Mais n'hésitez pas si vous voulez nous aider un petit peu. Alors, ça peut être financièrement parlant via le Tipeee. Ou ça peut être en nous mettant des petites étoiles sur Podcast iTunes Store, je sais pas comment ils l'ont renommé, Apple, sur Spotify et compagnie, ou simplement en parlant de nous, et puis en nous interpellant sur Internet via Twitter. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des problématiques, si vous avez envie qu'on aborde autre chose la prochaine fois, n'hésitez pas à nous le dire. On est ravis à chaque fois de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, Thomas, je vais te laisser aller te coucher. Je te remercie pour avoir veillé aussi tard avec nous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher.
À la prochaine, ciao.